Ce matin, nous continuons notre série de messages sur Eusan. Nous lisons 100 textes essentiels de la Bible jusqu'à juin. Dans le plan de lecture, nous avons commencé la deuxième partie de la Bible qui s'appelle le Nouveau Testament. Apparemment, nous y sommes. Et le message de ce matin, dans les messages, nous sommes dans l'Ancien Testament encore, nous sommes dans les prophètes. Les prophètes, en tant que parole de Dieu, sont appelés à prédire l'avenir, mais surtout à exprimer la pensée de Dieu envers son peuple, qui vit dans le compromis et l'entêtement. Ça, on le voit tellement souvent. Et donc, on retrouve avertissement et appel à la repentance. C'est ces deux choses qui reviennent tout le temps, c'est au cœur du message des prophètes, avertissement et appel à la repentance. Et bien sûr, il nous amène aussi à comprendre qu'il y a un Messie qui va venir. Nous parlerons tout à l'heure de cela. Cela m'amène à parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie dans notre relation avec Dieu. Oui, ce sujet nous concerne tous. Et là était ma difficulté devant Dieu, c'est que j'avais compris et saisi une chose importante. Et donc je me suis dit, comment Seigneur je vais faire pour arriver à amener l'Église à comprendre que ça nous concerne tous. Alors j'espère que je vais y arriver. Mais ça nous concerne tous. Nous sommes tous très forts en hypocrisie. Nous sommes par exemple capables de parler mal d'une personne à quelqu'un, et quelques minutes après, d'être super gentil avec cette personne, comme s'il n'y avait aucun problème. L'hypocrisie n'est pas une chose que quelques personnes vivent et d'autres non. Hein? Nous devons reconnaître ce matin que nous sommes tous tentés de vivre dans l'hypocrisie. Il nous est tous arrivé à un moment ou un autre d'être hypocrites. Notre manière de vivre. L'hypocrisie touche tout le monde. Elle est le danger qui guette toute piété devenue habitude, dans laquelle on a peu à peu perdu de vue la distinction entre l'authentique et l'apparence. On se contente de la forme. Je viens à l'église, je fais ceci ou cela, je me contente de ça. Mais il n'y a plus vraiment de profondeur. Le nouveau dictionnaire de la Bible nous donne cette définition de l'hypocrisie. L'homme hypocrite a une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui-même. Il cache ses sentiments pour retirer des avantages ou pour nuire à son prochain. Il fait état de qualités qu'il n'a pas. Le mot hypocrisie vient du grec hypocrite, qui s'applique en grec classique à l'acteur, et écoutez bien, celui qui est sous un masque et qui joue donc le rôle d'une autre personne. Et dans les traductions de la Bible hébraïque en grec ancien appelé Septante, ce mot grec traduit l'hébreu aneph, qui signifie l'impie, l'hypocrisie, le malhonnête. L'hypocrisie, une définition maintenant de Manu Bouton, c'est choisir de vivre notre relation avec Dieu comme si tout allait bien, alors qu'on sait très bien qu'il y a un problème dans notre relation avec lui. Il y a des choses à régler, il y a péché, mais nous continuons à venir à l'église, à prier, à faire comme si tout allait bien. Mais en fait, au fond, il y a des choses qui sont graves et qui doivent changer. Mais nous avons pris la décision, à un moment ou à un autre, de ne plus changer. Et notre cœur s'endurcit. Question. Si l'hypocrisie peut tous nous atteindre, et qu'il est possible de ne pas nous s'en rendre même compte, comment pouvons-nous en sortir? Voilà la question de ce matin. Et je vous invite donc à regarder ce que la Bible nous dit sur ce sujet dans le livre un prophète qui s'appelle Ésaïe. Nous lirons le chapitre 1 et les versets 2 à 4. Ésaïe, chapitre 1, versets 2 à 4. Vous, les cieux, écoutez. Toi, terre, tends l'oreille. C'est l'Éternel qui parle. J'ai nourri des enfants. Je les ai élevés. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf sait bien à qui il appartient. Et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs, enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le sang d'Israël. Vous lui avez tourné le dos. Nous pouvons continuer. Verset 11. À quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis. Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Fin de notre lecture. Waouh! Comment sortir de l'hypocrisie? Premièrement, reconnaître notre hypocrisie, aussi simple que cela. Si nous ne savons pas que nous avons un problème avec l'hypocrisie, nous n'en sortirons jamais. Et là, pour le révéler à son peuple, Dieu se sert d'Ésaïe comme porte-parole. Dans le passé, Dieu avait choisi le peuple d'Israël, il l'a nourri, il en a pris soin, il a toujours pardonné quand celui-ci s'est détourné de lui. L'a blessé, lui a manqué de respect et d'amour. Dieu n'a cessé de rappeler ses promesses de succès et de bonheur éternel pour son peuple. Malgré l'amour incroyable et immense de Dieu, le peuple d'Israël a toujours préféré tourner le dos à Dieu. C'est totalement anormal. Au début du texte que nous avons lu, Dieu dit que son peuple ne sait plus que c'est Dieu qui s'est toujours occupé de lui. Ça va loin. Cela révèle à quel point l'ingratitude et le mal ont atteint fortement le cœur du peuple. C'est dans une telle attitude de cœur qu'en Juda, le peuple continue à pratiquer des sacrifices et leurs réunions religieuses. Le peuple est ce qui l'a amené jusque-là, c'est son ingratitude, son égoïsme, son orgueil, en un mot, péché. L'hypocrisie du peuple est très forte. Le peuple pense encore être en communion avec Dieu. Tout va bien. Il s'obstine à offrir des sacrifices et à rendre des cultes à Dieu alors que son cœur est éloigné de Dieu par la violence et la corruption. Le peuple a oublié que les sacrifices, les cultes, ne sont agréables à Dieu que s'ils viennent d'un cœur pur, d'un cœur intègre. Aujourd'hui encore, beaucoup habitudes. Je peux porter un t-shirt abordant un logo chrétien, porter ma grosse Bible sous le bras, sourire à tout le monde, comme si la vie chrétienne était le plus beau des voyages, et prétendre que ma vie marche avec Jésus, que ma marche avec Jésus est la plus excitante des balades en forêt. Mais au fond de moi, les mauvaises habitudes attendent le moment propice pour ressurgir, surtout lorsque les difficultés s'amonceront sur mon chemin. Il est si facile de se comporter en religieux, en pharisien du 21e siècle, c'est comme ça qu'elle dit, en se concentrant sur une paroi bien blanche et propre et en ignorant les marques sales qui se cachent dessous. Nous vivons au sein d'une société obsédée par l'apparence extérieure. Et Jésus savait très bien qu'il était très dangereux de se concentrer sur l'apparence plutôt que sur la réalité spirituelle de l'être intérieur. Fin de citation. Une bonne manière de reconnaître notre hypocrisie est d'écouter la Bible, la parole de Dieu. D'écouter aussi l'Esprit de Dieu qui parle à notre conscience. Et Dieu peut aussi se servir des autres, comme il l'a fait en se servant d'Ésaïe. Comment sortir de l'hypocrisie? Nous devons reconnaître notre hypocrisie, tout simplement. Deuxièmement, en saisir la gravité. Dieu, dans les premiers versets, dit que la nation est coupable. Il dit « Malheur à toi !» Ce n'est pas que Dieu souhaite le malheur du peuple. C'est juste que s'il continue dans cette voie-là, il va droit dans le mur du malheur. Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice. Il dit au peuple de cesser de lui apporter d'inutiles offrandes. Il a tout cela en horreur. Il ne veut plus les rassemblements de culte. Waouh! Il dit qu'il déteste les fêtes. Et on sait de quelles fêtes il parle. Des fêtes que lui-même a instituées. Elles sont pour lui un fardeau. Il est las de les supporter. Dieu se cache les yeux dans les moments de prière. Il ne les entend pas. Dans les versets 21 à 23, Dieu dit à son peuple infidèle qu'il est une prostituée. Les mots sont forts. Pour lui, son peuple est comme une femme qui n'est plus fidèle à son mari. Dans les versets 24 et 26, Dieu considère son peuple comme ses ennemis. Il jugera leurs péchés. Voilà comment Dieu réagit à l'hypocrisie. Il a cela en horreur. Il va juger sévèrement, mais toujours dans un but positif, que son peuple change de conduite, change de chemin pour se tourner vers lui. Nous devons comprendre ce matin, et cela est tellement important, et cela est sur le cœur de Dieu ce matin, nous devons comprendre ceci. Venir à l'église, prier, chanter les louanges de Dieu, et se montrer en bon chrétien devant les autres peuvent être des choses que Dieu déteste. C'est notre propre si nous gardons en nous un péché. Jésus, comme nous l'avons lu dans la semaine, a dit ceci: ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, seuls ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Et la suite dit: au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chasser des démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et Jésus déclare alors: je ne vous ai jamais connu. C'est fou. Allez-vous-en. Et la suite: vous qui pratiquez le mal. Jésus parle ici de gens qui ont fait des choses extraordinaires, comme prophétiser, chasser des démons, faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Et sait faire plein de choses pour Dieu sans avoir de relation avec lui. Et en continuant à pécher sans repentance ni changement. Si nous avons un péché dans notre vie et que nous continuons à servir Dieu et à prier, nous sommes à côté d'un plaque. Et Dieu est clair, il n'y a pas de vie éternelle pour ceux qui sont hypocrites, qui jouent aux chrétiens alors qu'au fond de leur cœur, ils sont éloignés de Dieu. Un vrai chrétien est une personne qui vit régulièrement dans la repentance et la foi. Quelques questions pour nous amener plus loin. Est-ce que nous avons tourné le dos à Dieu? Est-ce que nous cachons un péché sans jamais chercher à nous en défaire? Pensons-nous que Dieu est notre pratique religieuse de ce matin? Et que pense-t-il de notre vie? A-t-il un dégoût? Notre foi n'est-elle visible qu'à l'église ou se voit-elle dans notre vie quotidienne? Le culte que nous rendons à Dieu les dimanches, est-ce juste pour passer un bon moment en bonne compagnie avec la bonne musique, ou exprimons-nous notre authentique adoration et amour pour Dieu? Sommes-nous toujours prêts à obéir à Dieu? Prenons-nous juste ce qui nous arrange dans la Bible en enlevant ce qui nous dérange? Sommes-nous devenus aveugles en pratiquant une sorte de religiosité vide de sens? Dans tous ces cas, écoutons bien l'appel et l'avertissement solennel de Dieu. Tu le jugeras. C'est terrible. Et donc, l'appel de Dieu, c'est de revenir à lui. Donc, comment sortir de l'hypocrisie, reconnaître notre hypocrisie, en saisir la gravité? Troisièmement, et dernier point, nous en repentir sincèrement. Ésaïe, chapitre 1, maintenant je vais lire les versets 16 à 20. Lavez-vous donc, parce que Dieu n'a pas à cœur le jugement. Dieu veut sauver. Dieu aime. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchancetés, vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs. Waouh, que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que de la neige, de la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare. Le peuple commet des crimes. Il y a du sang, de la corruption. Les chefs ne pratiquent pas la justice. Ils aiment l'argent. Ils ne prennent pas soin du peuple et ne répondent plus à ses besoins. Ils sont tellement loin de Dieu qu'on se dit qu'ils méritent le jugement de Dieu. Un point, c'est tout. Et Dieu est clair, si le peuple continue dans cette voie de mensonge, de péché, d'hypocrisie, de mal, il dit que c'est l'épée qui le mangera. Il y aura un jugement terrible. Mais pour ceux qui sont prêts à reconnaître leur faute, leur hypocrisie, la grâce de Dieu nous laisse sans voix. Dieu est toujours prêt à pardonner. Dieu connaît très bien notre tendance à l'hypocrisie, mais malgré cela, Dieu nous aime quand même. Il est toujours prêt à pardonner. Mes amis, je ne comprends pas l'amour de Dieu. Et je crois que devant ce texte-là, on doit non seulement être face au jugement de Dieu et se dire, mais là, c'est terrible ce qui est dit dans ce texte. Mais ce qui doit nous amener à quelque chose de plus fort, à des émotions plus fortes, c'est l'amour et la grâce de Dieu, ce pardon extraordinaire d'un Dieu qui est prêt à pardonner même si nous avons été hypocrites. Quelle grâce! Et moi, devant dans ce texte, je dis, mais je dis, Seigneur, je ne comprends pas cet amour. Comment est-ce possible que toi, tu puisses nous aimer autant? Comment est-ce possible que tu puisses pardonner mon hypocrisie? Quand une personne a été hypocrite envers nous, c'est tellement dur de pardonner, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Pour nous, c'est impardonnable. Allez, je vais vous donner une autre image, qui est clairement l'image que Dieu donne. Puisqu'il parlait de prostituée, il disait, c'est comme si une femme ou un homme trompait son conjoint à plusieurs reprises, au point de cracher au visage. Il serait totalement fou que le conjoint qui a été autant blessé soit prêt à pardonner et à vivre une relation d'amour sans aucune trace d'amertume. Anormal. C'est pourtant ce que Dieu dit dans notre texte. Dieu est toujours prêt à pardonner. Il y a de quoi nous remplir d'émotions, de joie, d'admiration devant un Dieu qui nous aime. Dieu qui a été comme insulté, mis de côté, blessé, Dieu n'abandonne pas son peuple. Comme nous l'avons entendu dimanche dernier par Jean-Claude, Dieu n'abandonne pas son peuple. Il le désire ardemment. Il désire ardemment cette relation intime avec son peuple, malgré son infidélité. Je ne comprends pas quel immense amour. Est-ce que vous ressentez ce matin cet amour-là de Dieu, ce pardon extraordinaire? Cela doit nous pousser à l'aimer davantage et à changer notre vie. Mes amis, Dieu est prêt à pardonner. La repentance attendue n'est pas comme certains le pensent. Un flot de larmes, de regrets exprimés, mais sans changement. La repentance attendue est celle dont parle Jean-Baptiste à l'époque de Jésus. Il dit ceci, je sens que vous savez de quoi, qu'est-ce que je veux dire? Du fruit digne de la repentance. Une autre traduction le dit ceci, ça explique. Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Dieu ne dit pas juste à son peuple, lavez-vous, purifiez-vous. Point final. L'hypocrite, là, il est content. Purifiez-vous, on va se purifier, pas de souci, on se lave les mains. Ça, l'hypocrite, il est heureux. Ça lui suffit. Il peut continuer dans son hypocrisie. Mais Dieu dit ensuite, écartez de ma vue vos méchancetés, vos méchantes actions, et cessez de faire le mal, efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assister l'opprimé, et défendez le droit de l'orphelin, plaider la cause de la veuve. Ça, c'est la vraie repentance. Ça, c'est le vrai pardon. Si je demande vraiment pardon à Dieu, c'est qu'il va montrer que c'est un vrai pardon. C'est que je vais chercher à changer. C'est que je vais abandonner ma méchanceté. Je vais abandonner mon péché. Cela n'enlève pas les luttes, n'est-ce pas? Mais je vais chercher à abandonner cela. Je vais être dans la lutte. Ça, c'est un retour à Dieu authentique. On ne demande pas juste pardon à Dieu pour retourner dans notre péché. Comme le cochon qu'on nettoie et puis qui repart dans la boue aussi vite. Hein. On ne demande pas juste pardon à Dieu pour cela, pour retourner dans notre péché. Mais on demande pardon à Dieu pour changer de vie, changer de comportement. C'est cela qui nous amène au vrai pardon de Dieu. La suite du texte est encore plus touchante. Je ne pourrais pas ne pas citer cette suite. Dieu pardonne. Il désire une relation d'amour avec nous. Et en même temps, il continue à faire des promesses extraordinaires. Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 4. Voici le message que Dieu a révélé à Ésaïe, fils d'Amoth, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes. Il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Étrangers. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple
qui l'a prescrite. Nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Et il sera l'abri, l'arbitre entre les nations. Oui, il sera le juge de nombreux peuples, mal martelant leur épée. Ils forgeront des seaux, des socs pour leur charrue, et de leur lance, ils feront des fossiles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'en apprendra plus la guerre. Je pense que vous commencez à sentir que là, on ne parle pas de quelque chose qui reste sur la terre. Là, il y a un parfum de l'éternité. La réalisation de cette magnifique promesse se vivra grâce au Messie tant attendu, Jésus-Christ. Dieu, par Jésus-Christ, qui vient sur la terre pour mourir à notre place, afin que nous soyons pleinement pardonnés, libérés de l'hypocrisie, de l'égoïsme, de l'orgueil, de tout ce qui pourrit notre vie et nous sépare de Dieu. Il nous offre la vie éternelle avec lui. Essayez d'imaginer un endroit au monde où il fait bon vivre. Tout y est parfait. Plus de conflits, plus de guerres. La paix y est présente. Mais ce qu'annonce Isaïe va vraiment dans ce sens. C'est merveilleux. Quel endroit magnifique nous attend, qui est écrit ici. La paix et la sécurité règnent dans ce monde. Notez que des hommes et des femmes du monde entier désirent s'y rendre. Et ils veulent y venir pour adorer le Dieu Créateur Tout-Puissant, tellement aimant. Ceux qui ont demandé pardon à Dieu pour leur faute et qui ont placé leur foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont reçu la vie éternelle. Et un jour, nous irons tous ensemble sur une nouvelle terre où la justice habitera. Yes! Plus de conflits. Dans ce lieu, il n'y a plus de pleurs, plus de souffrances. Nous y vivrons avec joie, avec la paix, avec l'amour que Dieu donne. Et tout cela sera parfait, parce que Dieu est parfait et ses projets sont parfaits. Sortir de l'hypocrisie, reconnaître notre hypocrisie, en saisir la gravité et nous en repentir sincèrement. Et nous savons qu'au-delà de ces trois points, l'œuvre de Christ à la croix, mort et ressuscité, est une motivation pour vivre dans, pour sortir de l'hypocrisie. Mais aussi, Dieu nous donne sa puissance, l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions vivre. De toute hypocrisie. Nous allons maintenant avoir un temps de silence pour examiner nos cœurs et demander pardon à Dieu pour toute forme d'hypocrisie, pour notre religiosité, pour nos péchés cachés. Si vous savez qu'il y a des péchés que vous avez cachés, que vous n'avez jamais pris la décision d'abandonner, Dieu vous appelle à lâcher cela et à lui demander pardon. Dieu vous regarde avec des yeux pleins d'amour. Il veut cette relation intime avec vous. Il veut vous aider à vivre loin de toute hypocrisie, de tout péché. Si vous savez que vous faites des choses pour Dieu dimanche après dimanche, semaine après semaine, mais qu'au fond votre cœur s'est éloigné de lui, venez à lui, revenez à Dieu. Et si vous désirez pour la première fois vous approcher de Dieu, il vous suffit de demander pardon à Dieu pour toutes vos fautes envers Dieu et de croire qu'en Jésus-Christ, vous pouvez recevoir le pardon de Dieu et la vie éternelle. Prenez avec nous ce temps pour dire à Dieu, avec vos mots, que vous désirez venir à lui. Prenons ce temps dans le silence et je finirai par la prière. Dieu notre Père, tu sais combien facilement tomber dans l'hypocrisie. Nous avons
ton Saint-Esprit, nous puissions sortir de toute religiosité. Que l'Église de soir ne vive plus dans tout ce qui est religiosité. Je dis cela d'une manière assez pour équilibrer cela, je ne peux pas vraiment dire plus, puisque je sais très bien que il nous arrivera encore de tomber. Mais nous avons tant et tant besoin de ton secours. Que notre amour pour toi et pour les autres ne cesse de grandir. Que notre vie de prière soit plus profonde, non égocentrique, mais dans une recherche toujours plus intense de te voir partout agir dans ce monde. Que la lecture de la Bible, de ta parole, soit vraiment un lieu de rencontre avec toi. Que les moments de rassemblement que nous avons ensemble soient des moments